Chapitre 24. Du bon usage de l'invisibilité. Xuan revint à la charge dès le lendemain matin, alors que les deux amis s'habillaient. Avec son caractère entier, elle détestait qu'on essaie de la faire changer d'avis, surtout quand elle avait raison. Hélas, elle était pratiquement toujours sûre d'avoir raison. «
Je n'aime pas savoir que tu prendras tous les risques, » marmonna-t-elle en enfilant une robe bleue en laine.
Elle avait apporté une robe de rechange, finalement. Frisant l'impertinence, elle n'avait pas manqué de souligner que Moiraine, en revanche, n'avait qu'une seule tenue à sa disposition.
« Mais je ne prendrai pas tous les risques, »
fit Moiraine, ravalant un soupir agacé. Elles avaient débattu de ce sujet presque toute la nuit.
« Tu devras t'exposer autant que moi. Bon, tu voudrais bien m'aider avec ces boutons ?»
Sans beaucoup de douceur, Xuan fit pivoter son ami et s'attaqua aux deux rangées de minuscules boutons nacrés qui couraient le long de son dos.
« Ne te tortille pas comme une anguille, »
grogna-t-elle, en tirant sur le tissu plus fort qu'il aurait été nécessaire.
« Si ça se passe comme tu l'espères, personne ne me remarquera. Toi, par contre, tu navigueras toute voile dehors, les rames déployées et le pavillon battant au vent.
Je maintiens qu'il doit y avoir un meilleur moyen de procéder. Nous allons nous asseoir et en parler, jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. »
Cette fois, Moiraine soupira. Un ours affligé d'une rage de dents aurait été d'une compagnie plus agréable que Xuan. Et tiens, même l'âne aurait été moins casse-pied. S'occupant des boutons de son ami, Moiraine tenta de faire diversion, en s'extasiant sur la coupe de sa robe, qui mettait si bien en valeur sa poitrine et ses hanches. Pour être franche, il ne s'agissait pas seulement de détourner l'attention de Xuan. En d'autres termes, à impertinence, impertinence et demie.
« C'est vrai que ça attire les regards masculins, »
répondit Xuan, avec un petit rire, et en se flanquant une petite tape sur la croupe. Accablée, Moiraine songea qu'elle allait peut-être devoir passer toute sa journée à soupirer. Lorsqu'elles descendirent, leurs capes pliées sur un bras, la salle commune était pleine de clientes attablées devant de solides petits déjeuners. Uniquement des femmes, toujours. Les deux candoriennes, l'une arborant trois longues chaînes et l'autre deux, se restaurer rapidement avec l'air rayonnant de femmes qui savourent par avance une journée rentable. Certaines clientes avaient dû traiter des affaires durant la nuit. Une mince jeune femme en robe anthracite regardait sa compagne plus rondelette avec l'expression dévastée d'une personne poussée au bord de la faillite. Les trois domani picoraient plus qu'elles mangeaient. Les yeux voilés, le teint pâle, elles semblaient avoir du mal à se remettre de leur libation de la veille.
« D'abord, un énorme petit déjeuner, »
dit Xuan, en se dressant sur la pointe des pieds.
« Et ensuite, nous discuterons. Ici, le buffet est somptueux. Des petits pains que nous pourrons manger en marchant. »
lâcha Moiraine, inflexible. Elle se dirigea vers maîtresse Tolvina, présentement occupée à donner ses instructions à une serveuse en tablier blanc immaculé, bordée d'un fin liseré bleu. La seule tactique pour l'emporter face à Xuan était de la submerger à la manière d'un raz-de-marée. Si on baissait un instant sa garde, c'était fini.
« Bonjour, maîtresse Tolvina, »
dit Moiraine, quand l'aubergiste se détourna enfin de son employé.
« Nous aimerions engager deux de vos hommes comme escorte, juste pour quelques heures ce matin. »
Au moins aussi costauds, les deux types qui montaient la garde devant la porte n'étaient pas les mêmes que la veille. L'aubergiste fronça les sourcils. Décidément, elle n'était pas du genre à tolérer les fantaisies. Là non plus, elle ne se fendit pas d'une révérence. Pourtant, Moiraine avait utilisé le pouvoir, afin que sa robe ait l'air de sortir de chez le blanchisseur.
« Pourquoi ? Si vous êtes impliqué dans un duel, je ne veux pas être mêlé à vos affaires. Ces combats au fouet, par exemple, sont une absurdité, et je ne vous pousserai pas sur ce chemin. De toute façon, vous reviendriez en sang. À vous voir, je suis certaine que vous ne vous êtes jamais battu. »
Moiraine se mordit la lèvre pour ne pas répliquer vertement. Selon Xuan, l'aubergiste imposait toutes sortes de règles à ses clientes, comme la fermeture de la porte d'entrée à minuit, ou l'interdiction d'avoir la visite d'un homme dans les chambres, et elle les faisait strictement respecter. Mais elle n'aurait pas parlé ainsi en sachant qu'elle avait affaire à des Aes Sedai.
« Je veux voir une banquière, »
dit Moiraine quand elle se fit assez confiance pour ouvrir la bouche. Se faire expulser de l'auberge n'aurait pas été un drame, mais ce n'était pas souhaitable non plus, quand on avait devant soi une journée très chargée.
« Il me faut une banquière honnête et fiable. Vous en connaissez une dans les environs ?»
Maîtresse Tolvina recommanda à ses clientes l'établissement avec lequel elle travaillait. Pour un déplacement si noble, elle se déclara prête à faire réveiller deux de ses gorilles, ainsi qu'elle les appelait. Pour une somme, aurait parié Moiraine, qui doublerait au minimum le prix de la journée. Elle ne se trompait pas, mais elle paya rubis sur l'ongle, parce que marchander aurait été une perte de temps,
avec le risque de faire augmenter les tarifs au bout du compte. Eileen Tolvina n'était pas du genre à apprécier les discussions de marchands de tapis. Très vite, Siouan et Moiraine se retrouvèrent assises face à face dans une chaise à porteurs soutenue par quatre types filiformes qui semblaient à peine assez costauds pour supporter leur propre poids. Pourtant, ils se faufilèrent dans la foule d'un pas plus alerte que celui des colosses armés de gourdins à tête lestée de plomb qui escortaient les deux amis.
« Nous courons à la catastrophe !»
grogna Siouan, tout en grignotant un petit pain encore chaud. « Si tu penses que nous avons besoin de plus d'argent, pourquoi pas ?»«
Cela dit, tu le jettes par les fenêtres, Moiraine. Mais que la lumière me brûle, ton plan ne marchera pas. On se fera piéger, et les gens au palais feront venir une sœur, s'il n'y en a pas déjà une. Je te répète qu'il faut trouver un autre moyen. »
Moiraine fit mine d'être occupée à manger son petit pain pour pouvoir répondre. De fait, elle avait une faim de loup. Le risque de se trouver face à une autre Aes Sedai ? Il existait, mais s'il se réalisait, eh bien, elles improviseraient à ce moment-là. Moiraine se répéta pour la énième fois que le vide dans son estomac venait de la faim et pas de la peur. De l'autosuggestion, bien sûr. Mais quel mal y avait-il à ça ? Son plan devait réussir, parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Comme à Tar Valon, la banque ressemblait à un sobre petit palais. À l'instar des véritables demeures des nobles, plus haut sur le versant de la montagne, celle-là brillait de mille feux, avec sa façade en carreaux dorés et ses deux grands dômes blancs. Le portier qui s'inclina devant les deux clientes resplendissait, dans sa redingote rouge aux manches dorées, des abeilles d'argent, et les garçons de bureau portaient une veste courte qui laissait voir leur postérieur joliment moulé par un pantalon serré. Grâce à sa robe de noble du Kyrienne, Moiraine obtint de rencontrer la banquière en personne, plutôt qu'un de ses sous-fifres. L'entretien se déroula dans un magnifique bureau aux murs lambrissés, éclairé par des lampes d'argent et doté d'un mobilier orné de juste ce qu'il fallait de dorure. Mince et jolie, Camille Noaline, une femme d'âge moyen aux cheveux nattés déjà grisonnants, avait le regard d'aigle commun à tous les professionnels de la finance. Elle se montra d'abord méfiante, car le Condor, après tout, était bien loin du Kyrienne, voire de Tar Valon. Elle jugea même judicieux de se servir d'une loupe pour étudier la signature d'Elaine Dormail au bas de la lettre de change de Moiraine. Par bonheur, le document était toujours lisible, malgré sa brève immersion dans une mare de mauvaise mémoire. Ce n'était pas la plus impressionnante des lettres de change de Moiraine, loin de là. Pourtant, même ainsi, et malgré la commission salée due à la distance entre les deux banques, il fallut 10 bourses pleines pour ranger toutes les pièces.
« Vous avez des gardes du corps, j'espère ?»
demanda maîtresse Noaline, en désignant la petite fortune posée sur son bureau. La banquière se montrait de plus en plus courtoise. Un effet bien connu de l'argent.
« Tchatchine est mal famée au point que deux femmes y soient en danger en plein jour ?»
lança Moiraine, mordante. Elle n'avait guère apprécié l'usage de la loupe.
« Bien, je crois que nous en avons terminé. »
Deux employés de bureau, en réalité des gardes, portèrent les bourses et les déposèrent sur le plancher de la chaise. Avisant les gorilles avec leurs gourdins, ils parurent rassurés sur l'avenir immédiat des deux clientes. Les porteurs s'accommodèrent apparemment sans difficulté du poids supplémentaire.
Même ce fameux forgeron aurait dû tituber, en étant chargé comme une mule,
marmonna Siouan, en tapotant du bout du pied la petite montagne de bourse.
Qui peut lui avoir brisé l'échine ainsi, par les entrailles de tout un banc de poissons?
Moiraine, quelle que soit la raison, je parie que c'est un coup de la chat noire.
Les porteurs entendaient tout, bien sûr. Ils continuèrent à avancer imperturbablement, probablement parce que les mots ajat noir n'avaient aucun sens pour eux. Savaient-ils seulement ce qu'était un ajat ? En revanche, la femme que la chaise dépassait, une matrone avec des peignes d'ivoire dans les cheveux, sursauta comme si une guêpe l'avait piqué, releva l'ourlet de sa jupe et partit au pas de course, laissant sur place ses deux servantes éberluées. Moiraine foudroya Siouan du regard. L'ignorance supposée des gens n'était pas une protection suffisante. Si Siouan rosit légèrement, une lueur de défi passa dans son regard. L'étoile du matin disposait d'une petite salle forte où sa clientèle pouvait laisser de l'argent en sécurité. Les femmes qui préféraient cette solution plutôt qu'avoir un coffre dans leur chambre ne s'attiraient aucun respect de la part de maîtresse Tolvina. Et il en fut de même après que Moiraine eut gratifié l'aubergiste d'une couronne d'or, histoire de la dédommager de ses efforts. Habituée au revers de fortune de ses clientes, Eileen Tolvina n'était pas du genre à se laisser impressionner par une prospérité provisoire.
« La meilleure couturière de Tchatchine ? »
répondit-elle à la question de Moiraine.
« C'est Silène Dorelmine, sans le moindre doute. Mais d'après ce qu'on dit, ses tarifs sont prohibitifs. »
Moiraine reprit une des bourses et l'attacha à sa ceinture, qui se mit à pencher inesthétiquement d'un côté. Le forgeron de malheur avait dû tituber. Et Siouan commençait à voir le mal partout. Rien de plus ni de moins.
Très mince, l'air hautain et la voix dépourvue de chaleur, Silène portait une robe bleue au décolleté plus que vertigineux. À peine accrochée à ses épaules, le vêtement semblait devoir en glisser à tout instant. Alors qu'elle aurait dû s'inquiéter de finir dans une tenue de ce genre, Moiraine ne se fit pas de soucis, car elle avait décidé de passer outre les convenances régissant les rapports d'une femme avec sa couturière. Elle supporta le rituel des mesures, car il était incontournable, mais choisit les tissus et les couleurs à une vitesse qui lui valut un regard désapprobateur de la belle Silène. Après cet incident, la couturière commença par refuser de confectionner les tenues dont Siwan aurait besoin. Très calme, Moiraine annonça qu'elle était prête à doubler le prix. Indignée qu'on ose parler si directement d'un sujet tabou, Silène rendit cependant les armes. Moiraine eut alors la certitude qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait. Dans cette boutique, en tout cas.
« Je veux une livraison demain, » dit-elle. « Mettez toutes vos couturières et petites mains sur cette commande. »
Cette fois, Silène ne put contenir son indignation et sa colère.
« Impossible !»
lâcha-t-elle, glaciale.
« À la fin du mois, avec de la chance. Probablement plus tard, si je trouve du temps pour vous. Une multitude de dames m'ont commandé des robes. Le roi du Malkier séjourne au palais, si vous ne saviez pas. Silène, le dernier roi du Malkier est mort il y a 25 ans. »
Prenant la grosse bourse, Moiraine la vida sur une table, révélant 30 couronnes d'or. Elle avait commandé plus de 3 robes, mais si la soie était aussi chère à Tchatchin qu'à Tarvalon, la main-d'œuvre se révélait bien moins coûteuse, et c'était l'essentiel du prix d'une robe. Silène regarda la petite fortune avec des yeux brillants, qui faillirent sortir de leurs orbites quand Moiraine annonça qu'il y aurait un second paiement de 30 pièces à la livraison.
« Mais de cette somme-là, je retirerai 6 pièces par jour de retard. »
Soudain, il sembla que les délais pouvaient être radicalement raccourcis dans certains cas.
« Tu aurais dû commander une robe comme celle de cette gourgandine éthique, »
marmonna Siwan quand les deux amis furent de retour dans leur chaise.
« Un souffle de vent la lui arracherait. Quand tu poseras ta tête d'idiote sur le bio, voir que les hommes te regardent sera peut-être une ultime consolation. »
Moiraine recourut à un exercice en principe destiné aux novices. Elle s'imagina sous la forme d'un bouton de rose s'épanouissant au soleil. Immédiatement, un grand calme l'envahit. Mais avec Siwan dans son espace vital, ça ne durerait peut-être pas. Et si elle continuait à serrer les dents, elle finirait par se les casser.
Siwan, il n'y a pas d'autre solution.
La journée était à demi passée, et il restait tant de choses à faire.
Tu crois que maîtresse Tolvina nous louerait un de ces gorilles pour plus de quelques heures?
Le roi du Malkier? Par la lumière. Silène l'avait vraiment prise pour une idiote. 2 jours après l'arrivée de Moiraine à Tchatchin, alors que sonnait midi, un carrosse jaune tiré par 4 chevaux gris assorti, et avec un colosse sur le siège du cocher, entra dans le palais Aes Daishar avec 2 juments attachés à l'arrière. Dame Moiraine d'Amodred, en grande robe de noblesse, les rayures allant de son col à la hauteur du genou, fut reçue avec tous les honneurs dus à son rang par un domestique de haut grade, dont les épaules étaient ornées, sous le cheval rouge cabré, de plusieurs clés d'argent. Le nom de la maison d'Amodred étant bien connu, même si le prénom de la dame ne l'était pas, et la manne étant mort, n'importe quel membre de la lignée pouvait être le prochain occupant du trône du soleil, si une autre maison noble ne s'en emparait pas. Naturellement, les hôtes de Moiraine ne devinerait jamais à quel point elle rêvait que le trône tombe entre d'autres mains. On affecta à la visiteuse une suite adaptée à son statut. 3 pièces spacieuses aux murs décorés de tapisseries et dotées d'un balcon intégral qui donnait sur le nord de la ville et, au-delà, offrait une vue magnifique sur des pics couronnés de neige. Elle eut également droit à 2 servantes et à 1 page. Les femmes s'empressèrent de défaire les bagages de leur maîtresse provisoire, puis elles lui firent couler un bain parfumé à l'eau de rose. Comme de juste, personne n'accorda d'attention à Suki, la domestique de Dame Moiraine.
« D'accord, » marmonna Siwan lorsque les servantes furent parties. « Je suis invisible, je le reconnais. »
Dans sa robe de laine grise en laine de qualité mais sans ornement, à part les couleurs de sa maîtresse au col et aux manches, Siwan passait en effet inaperçu.
« Toi, en revanche, tu es visible comme un haut seigneur qui manie un aviron. Bon sang, j'ai failli m'étrangler quand tu as demandé s'il y avait des Aes Sedai au palais. J'ai les nerfs en plotte. Ça me fait tourner la tête, j'ai du mal à respirer. Ce sont les effets de l'altitude, »
dit Moiraine.
« Tu t'y feras vite. Tous les visiteurs posent la question au sujet des Aes Sedai. Tu as bien vu que les servantes n'ont pas tiqué. »
Moiraine, en revanche, avait retenu son souffle en attendant la réponse. La présence d'une seule sœur aurait changé bien des choses.
« Siwan, j'en ai assez de te répéter sans cesse les mêmes choses. Un palais royal n'est pas une auberge. Ici, « appelez-moi Dame Alice ne satisferait personne. C'est un fait, pas une opinion. Je dois être moi-même. Si tu faisais bon usage de ton invisibilité en te mettant en quête de Dame Inès, Je serais ravi que nous repartions le plus vite possible.
Dès le lendemain serait parfait. Personne ne se sentirait insulté ni ne jaserait. Cela dit, Xuan avait raison avec son histoire d'aviron. Tous les regards, au palais, allaient se river sur l'étrangère appartenant à la maison responsable de la guerre des Aiels. Tout Aes Sedai y venant en visite entendrait immédiatement parler de Dame Damodred. Et si une sœur passait par Chachin, elle voudrait sûrement être logée au palais. Quant au triste sire nommé Gortanes, s'il la cherchait toujours, il ne tarderait pas à savoir où elle était. Selon l'expérience de Moiraine, assassiner son prochain dans un palais était un jeu d'enfant. Oui, Xuan parlait d'or. Moiraine était debout sur un piédestal, comme une cible, et sans savoir qui pouvait soudain se transformer en archer. Le départ devait être pour demain, et dès l'aube si possible. Xuan revint de sa mission avec de mauvaises nouvelles. Dame Inès faisait retraite pour pleurer son mari.
« Il est tombé raide mort, la tête dans son assiette de bouillie d'avoine, il y a 10 jours de ça. »
Xuan se laissa choir dans un fauteuil du salon, un bras pendant sur un des accoudoirs. Depuis qu'elle avait obtenu le châle, les leçons de maintien des formatrices s'estompaient dans sa mémoire.
C'était un très vieil homme, mais Inès l'aimait, semble-t-il. Pour sa retraite, elle dispose dans l'aile sud du palais d'un jardin privé et de 10 pièces. Son époux était un ami intime du prince Brice.
Inès ne verrait personne pendant 1 mois, à part sa famille, et ses serviteurs ne sortiraient de l'enclave qu'en cas d'absolue nécessité.
Elle recevra une Aes Sedai,
soupira Moiraine. Même une veuve en pleine lamentation ne refuserait pas une audience à une sœur. Xuan se leva d'un bond.
Tu es cinglé. Dame Moiraine Damodred attire déjà assez l'attention. Alors, l'Aes Sedai Moiraine Damodred, je n'ose pas imaginer. J'avais cru comprendre que nous ne traînerions pas ici.
Une des servantes, Aiko, aux cheveux gris et à la silhouette bedonnante, entra sur ses entrefaites pour annoncer l'arrivée de la Chatayan, qui allait accompagner Dame Damodred pour ce rendez-vous avec le prince Brice. À l'évidence, la pauvre Aiko fut surprise de voir Suki debout devant sa maîtresse et braquant sur elle un index accusateur.
« Dis à la Chatayan que j'arrive, » répondit Moiraine, très calme.
Dès que la servante fut partie, elle se leva pour être sur un pied d'égalité avec Xuan. Un exploit compliqué, même quand on était censé être sa maîtresse.
« Que proposes-tu d'autre, Xuan ? Rester jusqu'à ce qu'Inès ressorte est encore plus risqué. Et si ses servantes sont recluses avec elle, comment pourrais-tu les approcher ? Elles sortent rarement, mais je suis quand même sûr de pouvoir me faire inviter dans le fief d'Inès. »
Moiraine voulut dire qu'il faudrait un temps fou pour obtenir ce résultat, mais Xuan la prit par les épaules, la faisant tourner sur elle-même sous son œil critique.
« Une servante doit s'assurer de la mise de sa maîtresse, » dit-elle en poussant Moiraine vers la porte. « File ! La Chatayan t'attend. Avec un peu de chance, un jeune page nommé Cal doit guetter la venue de Suki. »